Mesdames, messieurs, entrez, je vous en prie. Monsieur Pasteur est actuellement fort occupé dans son laboratoire. Il m'a chargé de vous accueillir dans sa maison et, comme il le fait exceptionnellement, de vous guider jusqu'à son laboratoire. Vous pouvez considérer cette invitation comme un véritable privilège. Mais permettez-moi de me présenter. Adrien Loire, pour vous servir. Je suis le neveu de Monsieur Pasteur. Suite à mes études à l'Université de Lyon, celui-ci m'a fait l'immense honneur de me choisir comme préparateur dans son laboratoire. Je me souviens de cette scène comme si c'était hier. Elle s'est déroulée ici même, à Arbois, en 1882. J'avais alors 20 ans. Imaginez à 20 ans être choisi par mon oncle qui jouissait, dès cette époque, d'une solide réputation internationale. Il faut dire que ses travaux de chimiste sur la dissymétrie moléculaire, sur les fermentations, son étude des maladies des vins, ses recherches pour réfuter la théorie des générations spontanées, ses travaux sur les vaccinations et sur bien d'autres sujets encore, en faisaient déjà un des plus grands scientifiques du monde. Et d'ailleurs, même les braves gens d'ici le savent. Certains viennent demander à Monsieur Pasteur une place ou un appui dans leur démarche, mais la plupart viennent le voir lorsqu'ils ont un problème avec leur vin ou leur vigne, leur poule ou leur cochon je ne sais quoi. Ils viennent ici même dans cette pièce. Tenez, pas plus tard qu'hier, il y en a encore un qui est venu consulter Monsieur Pasteur parce que son vin s'était aigri. Il est venu, une bouteille à la main, frapper à sa porte. Et Monsieur Pasteur les accueille toujours. Cette porte ne l'aurait jamais fermée. Mon oncle m'a dit que le brave homme essayait de lui expliquer ce qui n'allait pas. Mais ce n'est pas un savant. Il n'utilise pas le langage scientifique. Comme toujours, mon oncle adopte la même attitude. Il reste calme, très grave, et il écoute avec attention jusqu'au bout. Il a pris le vin. En ce moment, il l'étudie à loisir. Dans peu de temps, je vous fais le pari qu'il aura trouvé la solution. Ça impressionne toujours beaucoup. On n'est pas loin de le prendre pour une sorte de médecin des vins. En fait, il est simplement un scientifique qui observe et réfléchit pour résoudre les problèmes. Eh oui, et d'ailleurs, il faut que je vous le dise, en tant que grand scientifique, Monsieur Pasteur est très méticuleux. Il aime l'ordre et ne supporterait pas que l'on touche au moindre objet dans cette maison. Alors, de grâce, respectez ses volontés. Ici, on ne touche à rien et on parle tout bas pour ne pas le déranger dans ses recherches. Voici le salon. C'est un lieu confortable réservé aux amis. En cela, le salon d'Arbois est bien calme comparé à celui de Paris, où la notoriété de Pasteur attire du monde. Il y a avant tout le cercle des scientifiques, chimistes, physiciens, mais aussi des historiens et géographes comme Vidal de la Blache et Ernest Lavisse. En revanche, les membres de l'Académie de médecine, dont M. Pasteur fait pourtant partie, sont bien moins présents. Il faut dire qu'il a toujours eu des relations houleuses avec les médecins. À Arbois, les choses sont beaucoup plus simples. Il s'agit la plupart du temps de fidèles amis d'enfance. Jules Vercel, son voisin d'en face, est l'un des plus intimes. Une partie de sa maison a d'ailleurs accueilli un des laboratoires de M. Pasteur, avant qu'il en installe un dans sa propre maison. Mais la famille, ça c'est important. Et nous nous réunissons ensemble, entre nous, dans le salon. Il y a là mon oncle et ma tante, leurs enfants, les oncles, tantes et cousins, selon les circonstances. Ma tante nous joue un morceau de piano, du Chopin ou du Schubert, quand ce n'est pas le mélotrope qui la remplace. Mon oncle apprécie particulièrement de jouer au billard. Il l'a fait venir de Paris à grands frais. Il y joue le soir, souvent avec ma tante. Il y a quelques jours, c'était avec Monsieur René, son gendre. Ce dernier est assez habile à ce jeu, mais comme mon oncle n'aime pas perdre, ça ne m'étonnerait pas que Monsieur René le laisse gagner de temps en temps. Cela n'enlève rien à l'adresse de mon oncle, malgré son handicap au bras gauche. Cette fois-ci, il a encore gagné la partie. Et il a ri de bon cœur. En revanche, lorsqu'il perd, il dit souvent « Monsieur René, vous me chargez la main !» Venez, entrez. Ici, c'est la salle à manger. Je fais partie de la tablée lors des réunions de famille, ou lorsque mon oncle me retient le soir pour prendre en note ses réflexions. Voyez-vous, tant Monsieur Pasteur peut être enflammé lorsqu'il défend en public ses théories scientifiques, tant il parle rarement à table, sauf lorsque quelques-uns de ses bons amis, tels Bertin, viennent égayer la maison. D'ailleurs, au sujet de conversation de table, j'ai une anecdote à vous raconter. Elle nous a tous marqués. Écoutez donc. Mon oncle voulait tester le vaccin contre la rage sur lui-même. Nous n'avions jusqu'ici vacciné que des personnes mordues, mais jamais, ô grand Dieu, des personnes saines. Nous, nous avons refusé catégoriquement qu'il fasse l'expérimentation sur lui-même. Je me suis alors porté volontaire. Quelque temps après, nous dînions ensemble, la famille Pasteur et la mienne. Tout d'un coup, mon oncle adressa la parole à ma mère en demandant des nouvelles de ma santé. Nous, nous avions tous bien compris où il voulait en venir. Je pris immédiatement la parole. « Ne dis rien, mon oncle, ne dis rien !» Madame Pasteur, au courant aussi de l'affaire, lui faisait désespérément des signes et lui dit « Louis, Louis, tais-toi !» Mais c'était trop tard, car une fois lancé, il ne pouvait suivre que ses propres idées. Et toute la tablée l'entendit dire « Votre fils ne vous a donc pas dit qu'il a suivi le traitement contre la rage ?» Un froid glacial tomba tout d'un coup, coupant court à toute conversation. Ma mère me voyait déjà mourant. Mais il n'en fut rien. Vous le voyez bien, je suis toujours vivant. Assez d'anecdotes. Mon oncle, qui a découvert les germes infectieux dans notre environnement, est très à cheval sur l'hygiène. Figurez-vous que ses neveux Vichot, du côté de sa sœur, l'appellent l'oncle microbe. À table, il examine tout avec minutie. La moindre poussière sur son assiette est retirée. Il gratte le pain avec son couteau, car personne n'est pas à l'abri d'un verre de farine. Et puis, avant d'arriver sur la table, son pain a été touché par plusieurs mains, et pas toujours très propre. À propos de main, il faut que je vous dise que M. Pasteur a la phobie de la poignée de main. Il dit que c'est le meilleur moyen de transmettre des germes. Lorsque vous le verrez tout à l'heure dans le laboratoire, je vous prie de ne pas en prendre ombrage s'il ne vous serre pas la main. Nous voici dans le jardin. Mettez-vous, je vous prie, face à la maison, que je vous explique son évolution. Mon oncle est très attaché à cette demeure. Il retrouve ici le souvenir de son père, Jean-Joseph, qui a acheté la maison en 1830. Elle était alors beaucoup plus petite. Jean-Joseph était tanneur. Son atelier était installé au bord de la cuisance, ce qui lui permettait de préparer et de laver les pots. Les cuirs, les fûts et les bassins occupaient tout l'espace de la cour et du sous-sol. C'était un milieu infectieux par excellence. Dire que mon oncle, qui accorde tant d'importance à l'hygiène, a aidé son père à la tannerie. Au décès de sa sœur, il a racheté la totalité de la maison et l'a rénovée de fond en comble. Il a fait disparaître la tannerie, a surélevé la maison d'un étage et a fait construire au-dessus de la cuisance des chambres pour ses petits-enfants. Sur votre droite, au-delà du mur couvert de lierre, il y a au premier étage son cher laboratoire. Pour pouvoir l'aménager, il a acheté la petite maison voisine, celle du père Pianet. À Arbois, mon oncle trouve le calme qu'il n'a pas à Paris. Entouré de sa famille, il peut ici se consacrer sereinement à ses travaux, dans son « château de la cuisance », comme il nomme affectueusement sa maison. Ah, j'aperçois Madame Pasteur qui vient à notre rencontre. Permettez-moi de prendre congé, quelques expériences m'appellent. Montez à l'étage, nous nous retrouvons tout à l'heure au laboratoire.
Bonjour, je suis Madame Pasteur, l'épouse de Louis. Soyez les bienvenus. Mon mari a beau être un grand savant, sachez que sa vocation pour la recherche n'a pas toujours été. Il s'est d'abord entiché du dessin. Tenez, regardez les fusains au mur, juste au-dessus de la table. Ils sont l'œuvre de mon cher époux. Louis avait alors un peu moins de 15 ans, et c'est son professeur, Étienne-Charles Pointurier, qui a encouragé son talent. Mais son père et le principal du collège, M. Romanet, avaient d'autres ambitions pour lui. Il a donc poursuivi ses études. Il échoue une première fois au baccalauréat S-Sciences, mais l'année suivante, il l'a obtenu avec, tenez-vous bien, une note médiocre en chimie. Lui qui est actuellement un des plus grand génie de la science. Quelle ironie! Quoi qu'il en soit, Louis a poursuivi ses études avec acharnement. Les cours de son maître, le célèbre chimiste Jean-Baptiste Dumas, l'ont passionné et ont déclenché sa véritable vocation. Après l'école normale supérieure à Paris, il a été nommé professeur de chimie à l'université de Strasbourg. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Mon père était alors recteur de cette université. Si Louis s'était pris rapidement de moi, il a dû me faire la cour pour que j'accepte de l'épouser. Après notre mariage, je l'ai suivi à Lille, où il obtint le poste de doyen de la faculté des sciences, puis à Paris, où il fut nommé directeur des études scientifiques à l'École normale. Ses travaux l'ont rendu rapidement célèbre. C'est ainsi que l'empereur Napoléon III en personne l'a chargé de travailler sur les maladies du ver à soie et sur celles du vin quand Louis y a proposé ses services. J'ai toujours essayé de l'aider dans son travail acharné. Depuis, Louis cumule depuis des années les titres et les succès. Pensez qu'il a été élu à l'Académie des sciences à 40 ans, puis à l'Académie française à 60 ans. Nous sommes dans la chambre de notre cher enfant Marie-Louise et de son époux René Valéry Radeau. Ah, les enfants, nous les chérissons, Louis et moi-même, plus que tout être au monde. Dès notre mariage, nous avions l'intention de fonder une famille. J'ai mis au monde Jeanne, notre première fille, à 24 ans, 10 mois après notre mariage. Après sont venus Jean-Baptiste, Cécile, Marie-Louise et enfin Camille, que j'ai eue à 37 ans. Malheureusement, 3 de nos chers enfants, Jeanne, Cécile et Camille, nous ont quittés trop jeunes. Que la vie est parfois cruelle. Je n'ai eu de cesse de prier pour leurs pauvres âmes. Les années 65-66 ont été pour nous une période terrible. Le père de Louis, Jean-Joseph, mourut d'abord. Quelques mois plus tard, ce fut le tour de notre pauvre petite Camille, qui n'avait que 2 ans. Puis, 10 mois après, de Cécile, à l'âge de 12 ans. Leurs tombes sont ici, dans le cimetière d'Arbois. Avec ces épreuves douloureuses, vous comprenez bien que le mariage de notre fille Marie-Louise à René nous a redonné de la gaieté, d'autant plus qu'ils nous ont offert de charmants petits-enfants, Louis et Camille, que nous appelons familièrement Loulou et Zizinette. Nous leur avons aménagé des petits nids douillets que vous pouvez voir au fond de la pièce. Louis dit souvent que les princes de sang n'ont pas mieux. Nous les gâtons trop, nos chers petits. Voyez un peu tous les jouets dont ils disposent. Voici mon salon, où je reçois habituellement le mardi. Mais je m'occupe surtout de Louis. Depuis son attaque qui l'a fortement handicapé sur tout le côté gauche, je fais en sorte qu'il se ménage. Ce n'est pas facile. Il est tellement absorbé par ses pensées scientifiques qu'il en oublie le reste. À ce sujet, écoutez donc, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je m'en amuse désormais, mais sur le moment, ça ne m'avait pas fait rire du tout. C'était le jour de notre mariage, le 29 mai 1849. À notre arrivée à l'église pour la célébration, Louis n'était pas là. Nous étions alors tous très inquiets. Mon père chargea un ami de le retrouver de toute urgence. Figurez-vous que mon Louis était tout simplement dans le laboratoire, absorbé par l'observation de la cristallisation des acides tartriques. J'aide Louis du mieux que je peux à promouvoir et à défendre ses travaux auprès de ses collègues scientifiques. Dans ce milieu, je vous l'assure, il faut se montrer et publier énormément pour exister. je relève dans la presse ce qui paraît sur les travaux de mon mari, et régulièrement, Louis me dicte ses réflexions qui sont publiées dans les revues scientifiques. Les plus astreignants sont les comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences qui ne saurait attendre. Si la chambre de Louis. Auparavant, c'était celle de son père, Jean-Joseph. Louis lui doit son goût du travail et sa ténacité. Écoutez cette lettre qu'il m'a adressée après ses funérailles. « Tu ne l'as pas connu, ma chère Marie, au temps où ma mère et lui travaillaient si durement pour leurs chers enfants qu'ils aimaient tant. Pour moi surtout, dont les livres, les mois de collège, la pension à Besançon coûtaient cher. » Plus loin, Louis poursuit. « Il avait la passion du savoir et de l'étude. Je l'ai vu étudiant des grammaires, la plume à la main, les comparant, les commentant, afin d'apprendre à 50 ans ce que lui avaient refusé les infortunes de ses premières années. Mais les livres qu'il aimait et recherchait par-dessus tout, c'était ceux qui lui remettaient en mémoire les faits de la grande époque impériale qu'il avait servi à son heure sur le champ de bataille. Voyez-vous, Louis est un grand patriote. Il dit volontiers que si la science n'a pas de patrie, l'homme de science doit en avoir une. Et Louis est bien français. La guerre contre la Prusse lui a laissé un souvenir fort douloureux. Ainsi, depuis Arbois, où nous nous étions réfugiés, Louis a été bouleversé d'apprendre que les Prussiens ont bombardé le muséum d'histoire naturelle. En signe de protestation, il a aussitôt renvoyé le diplôme honorifique que l'université de Bonn lui avait décerné peu de temps auparavant. Mais excusez-moi, le temps passe et mes obligations familiales m'obligent à vous abandonner. Continuez la visite, je vous en prie. Adrien vous attend au laboratoire. Il a encore un moment de libre à vous accorder.
Je viens juste d'achever les préparations d'une nouvelle expérience sur des échantillons de charbon du mouton et j'ai un peu de temps à vous consacrer pour vous présenter le fameux laboratoire. C'est à peu près la réplique de celui de Paris, en plus petit. Mais il y a tout ce qu'il faut. Les paillasses, l'évier, les tuves, les hottes, les armoires et étagères à rangement. Il y a même l'eau courante et le gaz. L'eau est remontée de la citerne sous la cour côté jardin par une pompe à bras jusqu'à ce réservoir au-dessus de l'évier. En tout, l'aménagement du laboratoire a coûté presque 30 000 francs, une somme considérable qui a été financée en partie par le ministère de l'Agriculture. Depuis, M. Pasteur peut travailler à Arbois comme à Paris en toute tranquillité. De toute façon, et comme il le dit lui-même, le travail, il n'y a que ça qui amuse. Moi, je suis à son entière disposition. Je suis son secrétaire lorsqu'il faut prendre des notes. Je suis aussi son manipulateur pour réaliser les expériences qu'il conçoit. Je suis donc en quelque sorte le prolongement de son propre corps. Il m'appelle ses mains. Pour imaginer ses expériences, M. Pasteur reste complètement isolé. Et pour rien au monde, il ne me viendrait à l'idée de le déranger. Le silence règne alors. De toute façon, si on s'approche de lui à ces moments, il vous ignore. Il peut consulter ses notes et parfois, je l'entends dire tout étonné, « Comme c'est beau !» Et c'est moi qui ai découvert tout cela, je l'avais oublié. Il y en a des choses là-dedans. Son attention est uniquement tournée vers ce qu'il conçoit, et ce, à n'importe quel instant de la journée. Madame Pasteur le sait bien et ne le dérange surtout pas. Cela peut durer des jours entiers. Une fois sa pensée arrêtée, il écrit précisément le protocole de l'expérience. Puis, je l'exécute à la lettre. De toute façon, M. Pasteur est assis juste à côté de moi lorsque je manipule les éprouvettes. Il observe tout afin que tout soit scrupuleusement fait. Si l'expérience se déroule bien, il lâche les mots « c'est dans le sens » ou « il faut travailler ». En fin d'expérience, il réfléchit à nouveau, puis me dicte ses réflexions. Sa pensée est si claire qu'il a rarement besoin de revenir sur ses mots. Mais à propos d'expérience, J'en ai une en cours et il faut que je vous quitte impérativement pour suivre son déroulement. Vous avez de la chance. Monsieur Pasteur a accepté de s'entretenir avec vous. Il est sur sa table, en train d'effectuer des observations sur son microscope. Au revoir.